9h-10h, AVS avec Philippe Robichon.
Maître Serran vous salue, mes amis, pour cette 15e émission de l'année 2022, la 4e émission durant cette période de Ramadan. Et qui dit 4e émission durant cette période de Ramadan dit très bientôt que le Ramadan tirera sa révérence, ce qui nous permettra, mon cher Philippe, si Dieu nous prête vie, de partager un petit chocolat, peut-être vendredi prochain, Inch'Allah. Et comme tous les ans, ce Ramadan qui nous a accompagnés quotidiennement, qui nous a permis de nous ressourcer, d'être peut-être, et je l'espère, plus généreux, plus sensibles aux démunis, va bientôt nous manquer. Mais la fin du Ramadan ne va pas manquer à tout le monde. La fin du Ramadan va aussi soulager ceux qui n'ont cessé de déclarer que la pénurie d'huile était due au Ramadan et donc aux musulmans, n'est-ce pas, BFM Paris. La fin du Ramadan va aussi soulager Monsieur Vincent Hervouette, journaliste, paraît-il, de son état, qui a déclaré sur CNews que pendant le Ramadan, il y avait des vols de moutons. Ramadan, mouton, donc le voleur serait bien évidemment un musulman. Il y a depuis maintenant quelques mois, pour ne pas dire quelques années, dans ce pays qu'est la France, dans ce pays qui est le mien, une mauvaise ambiance quand tu es musulman. Le musulman est devenu un véritable punching ball, un défouloir, alors que le plus beauf des beaufs fasse de telles déclarations, il y aurait à la limite des circonstances atténuantes, mais que des types qui se présentent comme journalistes fassent des déclarations aussi débiles, ça en devient navrant, voire même pitoyable. Rappelons à ce monsieur, je l'ai dit, qui est journaliste de son état, mais manifestement pas suffisamment informé, que la célébration de l'Aïd el-Kébir, c'est-à-dire le jour où on va te le mouton, aura lieu au mois de juillet, le dimanche 10 juillet 2022, ce qui, d'après la théorie de ce monsieur, signifierait que le musulman qui a volé un mouton doit le planquer jusqu'au jour du Eid, t'imagines. Si l'extrême droite en plus était passée au présidentiel, ces types s'en seraient donnés à cœur joie. On les aurait vus avec une petite moustache, un costume noir, avec sur le bras gauche un signe distinctif qui aurait pu ressembler à un brassard rouge avec une petite svastika noire. Ça vous rappelle quelque chose? Bah oui, ça commence souvent comme ça, mais heureusement, pas d'extrême droite. Cette fois-ci, il est peu probable qu'on y échappe la prochaine fois, les gars. Ce pays a connu à deux reprises des alertes. La fille Le Pen en 2017-2022, mais n'oubliez pas qu'on a eu le père Le Pen au deuxième tour contre Jacques Chirac. Et le jour où ça arrivera, on se réveillera avec la gueule de bois et je vous dirai, car nous serons, mon cher Philippe, toujours à la radio et toujours aussi frères, enfin moi, je vous dirai, vous en souvenez, je vous l'avais dit, mais ce sera trop tard. Bon, pour l'instant, c'est le président Macron qui succède à lui-même et c'est promis, il nous l'a dit, il dirigera le pays autrement, fini la verticalité. Il y aura aussi plus d'écologie dans sa politique, plus de bienveillance pour les petites gens qui, c'est promis, ne s'entendront plus dire avec condescendance qu'ils peuvent trouver du boulot en traversant la rue. Pour ma part, je crains que pendant ces 5 ans, on sera encore amené à avaler des pelletées de merde fournies par le gouvernement. Mais avant d'en faire une indigestion, je vous invite à nous contacter au 01 53 48 3000 pour poser vos questions. Émission sous le contrôle de celui dont le nom circule toujours dans les couloirs de l'Élysée, Monsieur Philippe Robichon, à vous, maestro.
Alors, Maître Serran, 2-3 choses. Nous avons été témoins ce matin d'un trafic d'huile de tournesol.
C'est vrai.
À Beurre FM. Alors là, je me suis dit, il se passe des choses.
C'est vrai, c'est extraordinaire.
On a voulu nous vendre de l'huile de tournesol.
C'est-à-dire qu'on en est là.
On en est là.
Il y a un trafic parallèle.
Et je crois que Kim en aurait pris 3 bouteilles. On est d'accord?
Je suis obligé d'aller dans votre sens puisque j'ai assisté à la scène.
Non. Kim en aurait pris 3 bouteilles. Non, attends. D'abord, il faut qu'on vous ouvre votre micro, Kim.
Vous l'avez ouvert, ce micro?
Non. Attends.
Il est pas ouvert?
Voilà.
C'est bien. C'est mieux.
C'est mieux. Oui.
Maître Serran, en ce mois béni du Ramadan, le premier principe de base, ne pas mentir.
Non, il a dit,
j'en suis témoin. Non. Est-ce que vous avez entendu quelqu'un proposer de l'huile?
On a le dealer.
Voilà, on a eu le dealer. À la source.
le gars qui a voulu nous en refourguer.
Attendez, qu'il n'a pas utilisé mon nom pour que, à des fins commerciales, il puisse vendre son huile à Maître Serran et à Philippe Robichon? C'est un argument commercial. Si j'en vends à qui?
C'est un argument commercial.
Je balance, c'est Fodil Bellamri qui fait du trafic.
Oh là, mais c'est gravissime.
Chez Beurre FM.
Non, mais la délation, c'est gravissime.
Il en propose entre 3 et 5 tonnes.
Alors, tu peux aller manger parce que là, ton jeûne, il est rompu.
Yeah. Je l'ai balancé, je m'en fous.
Ah ouais, non. On en est là, 40. Oh là, ouais. C'est grave, grave,
grave. Non, mais de l'huile. On va être payé en huile ce mois-ci, Kim. Ouais, je te préviens.
Alors, en fait, je vous explique. C'est que j'ai une source qui me permet d'obtenir de l'huile à 1,70€ au lieu de 3,50€. Donc, à partir du moment où j'ai cette source, pourquoi la laisser se tarir?
Je les ai vus sortir des billets.
Il a raison.
Je dis ça, je dirais.
Ah ouais. Mais en fait, on peut rien faire en cachette ici. C'est-à-dire que on vient nous chuchoter à l'oreille. J'ai un plan pour vous, mais on le balance à l'antenne.
Bah, c'est Philippe Robichon qui, c'est incroyable.
Non, mais moi, j'étais choqué.
Une amitié de 25 ans qui vient d'être brisée en quelques secondes.
J'ai vu que Kim faisait du trafic. Moi, je dis ça, je dis rien.
Tu sais ce que Kim fait avec cette huile après?
Non.
Il le filtre et ensuite, il met dans sa voiture pour plus payer ça devant.
Ah ouais, on en est là. Ah ouais, mais non, fallait me le dire. Dans ce cas-là, j'aurais accepté moi aussi, parce que, vu le prix de l'essence.
Alors, non, j'ai juste expliqué à Mona, parce qu'elle me disait qu'il y avait du trafic d'huile de friture. Oui. J'ai dit qu'effectivement, ça fonctionnait dans les moteurs diesel mélangés à du gasoil. En revanche, c'est interdit par la loi.
Ah bon?
Parce que y a les taxes qui ne s'appliquent pas dessus. Donc voilà, si c'est illégal, et si jamais vous roulez, par exemple, au cœur de Paris, près des bureaux d'Anne Hidalgo, et que ça sent la friture dans la voiture, vous risquez des petits problèmes.
Ouais, c'est vrai.
Mais sur l'autoroute, ça passe.
Ouais, sur l'autoroute ou ailleurs.
On est en pleine nature, ça sent moins facilement. Sur le périph', ça passe aussi.
Bon. Tu me donnes des idées.
Faut juste pas se faire interpeller.
Voilà. Il se passe des choses quand même. Hein. Il se passe des choses.
Et bon. Je veux dire, bon voilà. Mais là, je suis déçu d'avoir été balancé comme ça. Nom de Faudel Bellamri jeté en pâture, c'est quand même abusé.
Non, c'est vrai.
Il vient rendre service et tout le monde lui tape dessus.
Bon, enfin bref. Il se passe des. Alors, si vous voulez un dépannage et que vous êtes en manque d'huile. Hein, vous appelez Kim, hein, on va vous arranger ça, il peut peut-être vous donner sur sa dotation personnelle du mois.
Parce que allez, bonne émission.
L'imam Abdelali, lui, déjà, il est juste pour terminer le mois au niveau de l'huile. Ah, il se passe vraiment des choses, hein. Vous y croyez, vous, à cette pénurie d'huile, Maître Serral?
Bah oui, mais, moi je fais pas de course, mais mon épouse, pardon, s'en occupe, donc, on le constate, enfin, elle le constate. C'est-à-dire que il y a des rayons qui sont totalement vides, et donc c'est un peu fou comme situation quand même. Non, mais ce pays devient fou, hein. C'est ce que je vous disais, hein. Ça va être bientôt le rationnement. C'est-à-dire que
ça sent ça.
Ouais.
Bon, heureusement qu'on a des plans nous ici.
Oui, non, mais c'est ça. Voilà.
Bon, vous pourrez téléphoner à Maître Serral, enfin en tout cas lui poser vos questions 01 53 48 3000. Le numéro est toujours gratuit, hein, 01 53 48 3000. Mais nous avons décidé d'évoquer un sujet que Mona nous a demandé ce matin. C'est l'émancipation des mineurs. Les mineurs émancipés. Je sais même plus que ça existait cette mesure.
Alors c'est entre guillemets, j'allais dire assez exceptionnel, sauf que même moi dans
pratique,
voilà, dans mon activité d'avocat, on n'a pas eu beaucoup de personnes. Alors soit les parents, soit le mineur lui-même. Et en l'occurrence, là, c'est un mineur qui est venu me voir pour solliciter l'émancipation. Alors on lui pose un certain nombre de questions. Tout d'abord, pourquoi? Parce qu'il faut savoir que il y a d'abord une émancipation qui va se faire automatiquement à partir du moment où, si vous êtes mineur et vous vous mariez, vous serez de facto émancipé. Il faut.
Alors, on va peut-être définir le mot émancipé parce que on pourrait le comprendre différemment.
Bien sûr. Alors, émancipé, ça signifie que, alors, vous êtes un mineur de 16 ans révolu.
Donc, il faut au moins 16 ans.
Il faut au moins 16 ans. Et à partir de ce moment-là, donc, vous pouvez demander cette émancipation, c'est-à-dire être considéré comme un majeur, c'est-à-dire avoir tous les droits qu'aurait un majeur ou des droits que vous auriez eu si vous aviez attendu 18 ans. Donc on peut se dire, on n'a qu'à attendre et puis on bénéficiera automatiquement de ces droits. Mais il arrive parfois, il y a des situations qui sont assez particulières où quand on est mineur, encore une fois, il faut avoir 16 ans révolus, on peut demander à accéder entre guillemets à un statut de majeur. Il y a d'abord une émancipation qui est automatique. Si vous êtes mineur et si vous souhaitez vous marier, alors avec l'autorisation de vos parents et avec une dispense du procureur de la République, c'est-à-dire que ça se fait pas entre guillemets en cachette, donc l'État est officiellement informé, donc vous pouvez être autorisé à vous marier. Et puis à partir du moment où vous êtes marié, vous allez être automatiquement anticipé. Donc là, il n'y a pas de difficulté et vous pourrez
émancipé,
c'est autre chose.
C'est une anticipation
aussi. Et vous pourrez encore une fois, à partir du moment où vous avez cette autorisation. Alors, en matière de mariage, très souvent, hein, c'est à partir du moment où vous vous avez fait en sorte que votre compagne qui deviendra votre épouse est enceinte, et puis bon, la société fait que, donc à ce moment-là, vous pouvez demander cette émancipation et obtenir l'autorisation du procureur de la République. Donc ça, c'est un cas assez particulier, mais on a un cas un peu plus classique, c'est-à-dire qu'il arrive parfois. Alors, soit pour des raisons, on va dire, d'études, c'est-à-dire que si vous êtes amené à étudier à l'étranger, vous avez peut-être besoin d'un statut particulier si vous êtes loin de la famille. Si, on l'a vu avec beaucoup de entre guillemets, de youtubeurs, c'est-à-dire que si vous êtes amené à créer aussi une société, à devenir commerçant, c'est cette qualité de commerçant, il est parfois utile de pouvoir bénéficier de cette émancipation, pour la simple et bonne raison que ça va vous permettre, entre guillemets, d'être considéré comme étant totalement autonome et de ne plus dépendre officiellement de vos parents. Parce que si demain, dans le cadre de votre commerce, il devait se passer quoi que ce soit, évidemment, ça pourrait impacter le budget de vos parents ou alors les biens de vos parents. Donc, on sépare, entre guillemets, les patrimoine en la matière. Pour cette émancipation, alors ça se fait pas en un claquement de doigts, c'est-à-dire qu'il faut quand même d'abord l'accord à minima d'un des parents, et quand bien même le ou les parents auraient donné leur accord, vous avez besoin, et heureusement puisqu'il y a un contrôle qui se fait, de l'autorisation d'un juge, qui est le juge des tutelles. Et cette autorisation, donc, elle est importante parce que le juge des tutelles, encore une fois, c'est pas commun, donc veut comprendre pour quelle raison un enfant qui relève de la responsabilité de ses parents souhaite, entre guillemets, devenir théoriquement, on va dire, en tout cas, majeur. Et le juge va vérifier quoi ? D'abord, il va vérifier la volonté affichée de l'intéressé, mais il va surtout vérifier que les parents ne poussent pas l'enfant à solliciter cette mesure, cette émancipation, simplement pour se débarrasser du gamin. C'est-à-dire que si vous avez un enfant qui n'est pas contrôlable, qui éventuellement peut être violent, et puis les parents qui baissent les bras et qui peuvent se dire, bah écoutez, si c'est comme ça, moi je veux pas m'occuper du gamin. On a eu des procédures, mais qui n'ont pas abouti. On a des parents qui demandent au juge des tutelles d'intervenir en la matière, en se disant que si le gamin demain est émancipé, d'abord je peux le chasser du domicile, et puis j'ai plus de responsabilité à son égard. Donc le travail délicat du juge des tutelles, c'est ça, c'est de vérifier les vraies et les bonnes raisons de cette émancipation. Et je le redis, c'est pas pour se débarrasser d'un gamin. Et là, en l'occurrence, je vous parlais de ce jeune homme qui était venu nous consulter. On est dans ce cas-là, c'est-à-dire que c'est un litige avec ses parents. C'est un jeune homme qui passe très souvent la nuit à l'extérieur, encore une fois, parce qu'il a, on va mettre des guillemets, en tout cas des tout petits guillemets, été chassé par ses parents, donc, et qu'il sollicitait donc cette mesure. Sauf que c'est une mesure qui, d'abord, il faut le savoir, n'est pas demandée par l'intéressé, il faut que ce soit le ou les parents qui le demandent. Vous voyez, il n'y a pas la capacité juridique pour une personne de dire je vais aller voir un juge des tutelles et dire j'aimerais une mesure d'émancipation. Ça, c'est pas possible. Donc, il faut que ce soit le ou les parents. Et il faut donc, encore une fois, cette raison valable. Mais si c'est pour les parents, une volonté de se débarrasser du gamin, soit pour le gamin, une volonté de couper les liens avec ses parents, l'émancipation, en tout cas les conditions juridiques de l'émancipation, ne sont pas réunies.
Et il y a besoin d'un avocat ?
Alors, c'est une procédure qui va se faire avec un avocat. Alors, il n'y a pas
d'obligation. Ah oui, il y a besoin d'un avocat.
Alors, il n'y a pas d'obligation. Ouais. Voilà, si c'est le sens de votre question, il n'y a pas d'obligation, puisqu'on est devant un juge qui est le juge des tutelles, donc on peut se présenter, en tout cas sans avocat. C'est une procédure, encore une fois, qui nécessite quand même d'être suffisamment informé pour recourir au service d'un avocat. Mais il faut savoir que si le juge des tutelles, pour une raison lambda, était amené à refuser cette procédure, vous avez toujours la possibilité de la contester devant, évidemment, une cour d'appel.
Bien, vous posez vos questions juridiques à Maître Serran dans un instant. Je vous rappelle le numéro du standard 01 53 48 3000. 01 53 48 3000.
AVS revient dans un instant. 9h-10h, AVS avec Philippe Robichon.
Et Maître Serran est là, il vous lui posez vos questions juridiques au 01 53 48 3000 direction Toulouse. C'est Larsen qui est avec nous. Bonjour et bienvenue.
Bonjour Philippe, bonjour Maître Serran.
Bonjour Larsen.
Oui, ça va.
Ça va et vous?
Ça va, merci. Bon Ramadan.
Merci.
Je voudrais vous poser une question concernant le regroupement familial.
Allez-y, voilà, Larsen, on vous écoute.
Voilà, j'ai déposé un dossier pour ma femme et mon garçon mineur. Et pour le moment, j'ai pas reçu de retour. Et je voudrais savoir quel est le temps de l'instruction du dossier.
Alors, on est d'accord, c'est-à-dire que madame et l'enfant sont au pays.
Ils sont en Algérie,
voilà.
Oui.
Bon, parce qu'on a parfois des regroupements de cette nature qui se font alors que les uns et les autres sont sur le territoire français. C'est toujours un petit peu plus compliqué. Ça fait combien de temps que vous avez diligenté la procédure?
Le mois de février, j'ai déposé là, parce que j'étais en vacances en Algérie, et quand je suis revenu, j'ai déposé mon dossier le mois
d'accord.
de février.
Au moment où on se parle, est-ce qu'il y a eu des démarches du côté mairie pour vérifier les conditions du logement?
Non, il n'y a aucune d'accord. démarche. Le seul retour que j'ai reçu, c'était la lettre recommandée de mon dossier. Voilà.
Ah d'accord, le dossier que vous avez envoyé, simplement pour être certain que c'était réceptionné.
Oui, j'ai reçu le retour. Ouais, mon dossier d'accord. vient d'arriver à l'OPI. Et là, j'ai pas reçu de retour.
Alors, il n'y a pas, en vérité, de délai particulier. C'est-à-dire que dans la pratique, ils mettent parfois entre 6 et 8 à 10 mois. Pour avoir un premier retour et le premier déclic, et c'est là où on se dit bah tiens le dossier avance quand même un peu, c'est le courrier de la mairie qui va vous informer donc qu'une personne va venir contrôler le domicile et voir un peu au niveau superficie et autres comment ça se passe. Mais pour être tout à fait clair, c'est-à-dire que et vraiment depuis quelque temps en particulier. Même lorsque ces démarches sont faites, même lorsque il y a un feu vert qui est ordonné pour autoriser le regroupement familial, vous avez toujours une administration qui est pointilleuse, pour ne pas dire pénible, qui traîne. Et ça, c'est insupportable, puisqu'on n'a pas, en vérité, à partir du moment où on sait que on obtient le feu vert, on n'a pas de moyen de pression. Pour leur dire, attendez, puisque j'ai obtenu le feu vert, qu'est-ce qui fait que un citoyen lambda d'une administration vient me compliquer la vie? Et ça arrive de plus en plus souvent. Ça arrive même lorsqu'on obtient une décision de justice qui dit, on est d'accord pour le regroupement familial. Ça commence à bloquer parfois, on appelle ça la mauvaise foi, hein, tout simplement. Ça commence à bloquer parfois au niveau de l'exécution de la décision. Donc c'est vrai qu'il va falloir être armé de patience, mais bon, je vous dis, quand ils reviennent vers vous dans un délai de 6 mois à minima, c'est qu'ils ont fait beaucoup d'efforts. Donc soyez pas surpris. Le délai que vous m'avez donné, en tout cas le dépôt du dossier et la période où on se trouve actuellement, donc soyez pas surpris, c'est un délai alors qui évidemment est long pour vous. Mais qui est, j'allais dire, habituel, pour ne pas dire normal.
Oui, autre chose, il y a autre chose, Mathéra. Est-ce qu'il n'y a pas une possibilité de leur demander un visa en attendant l'instruction de
non, et, alors,
du dossier?
C'est une très bonne question, vraiment, parce que, comme ce sont des procédures qui sont longues, on a parfois des personnes au pays qui se disent, en attendant que le dossier soit instruit, je vais solliciter un visa. Alors, très souvent, c'est un visa court séjour pour dire au moins, voilà, je serai avec mon mari, avec ma femme, en tout cas, peu importe. Et quand on dépose un dossier de cette nature, enfin, quand vous formalisez une demande de visa, ils verront bien, monsieur sur informatique, qu'il existe déjà un dossier de regroupement familial. De facto, ils vont s'y opposer. Vous voyez, c'est-à-dire que, en gros, on va considérer que vous essayez, en tout cas, que madame essaie de court-circuiter le circuit traditionnel. Et c'est pas bon. Quand vous avez une ou deux procédures qui s'entrechoquent, en règle générale, l'administration française est bête et méchante, c'est-à-dire qu'elle dit non à tout. Donc stratégiquement, Il vaut mieux éviter que madame se grille toute seule et fasse une demande, même si je peux le comprendre, mais vaut mieux éviter qu'elle fasse une demande de cette nature.
Ok, d'accord, merci, maître.
Merci à vous pour votre appel. Allez, et bon courage.
À bientôt.
Merci, la scène. On reste à Toulouse et c'est Camélia qui est avec nous. Bonsoir. Bonsoir, non. Bonjour, Camélia.
Bonjour.
9h28, c'est encore le matin. Bonjour, Camélia.
Okay, décalage bon, horaire à Toulouse.
Ah, bah, je suis en décalage.
Normalement, chez nous, c'est toujours à 9h28. Je ne sais pas ce que ça change chez vous.
Ah, je ne sais pas. À Toulouse, il y a le méridien de Toulouse. Donc, bon.
Ok. J'ai appelé juste pour remettre en avance qu'il a posé la question à Hassan. Parce que moi aussi, j'ai fait une demande de regroupement familial ici à Toulouse. J'ai fait ma demande depuis janvier 2020. Et je viens d'avoir l'avis favorable. C'est pour mon fils qui est mineur. Je viens d'avoir la réponse au mois de mars, la fin mois de mars. Alors, c'est juste pour lui dire, il faut patienter parce que Toulouse, c'est parmi les...
Ouais, enfin, de 2020 maintenant, ouais, il faut vraiment patienter. Enfin, c'est même abusif comme timing.
Eh bien oui, parce qu'une année après, au mois de janvier, j'ai pu avoir mon attestation de dépôt. Entre-temps, j'ai eu trois fois une relance de complémentaire de dossier. Et après, il faut juste patienter sur le département de Toulouse.
Alors, ce que vous dites est intéressant parce que les administrations sont quand même assez, assez pénibles, pour ne pas dire gonflées. C'est-à-dire que... on vous demande une liste de documents, vous envoyez les documents et puis... Il peut arriver que tous les documents envoyés par le client soient pas complets, mais l'administration revient pas vers vous dans la semaine ou dans le mois qui suit. C'est-à-dire ils mettent parfois 5-6 et parfois même une année pour vous dire bah attendez, il nous manque encore telle ou telle pièce, et c'est ce qui fait que les délais sont parfois particulièrement longs. C'est pas le système en lui-même, c'est le ou la personne qui a géré votre dossier. On a du mal à comprendre, encore une fois, quand il vous manque une pièce, à minima, l'administration peut revenir vers vous. Allez, on va dire même dans le mois, ça peut sembler raisonnable. Parfois, ils attendent 8 mois, 10 mois, même un an pour dire renvoyer tel document puisqu'il est manquant. Et c'est comme ça que l'administration, j'allais dire, gagne du temps. Alors, quand on dit ça, on a parfois l'impression qu'ils font ça pour essayer de dégoûter l'autre, c'est-à-dire pour dire, bon, bah, écoutez, bah, tant pis, et puis le regroupement familial, on passera à autre chose. Donc, c'est vrai qu'au niveau de la gestion des dossiers, c'est parfois assez compliqué.
J'aimerais bien passer juste un mot, parce que tous les deux complémentaires que j'ai eus, c'était juste une mise à jour de mes fiches de paye, et niet, c'était juste ça. Alors,
ouais, mais ami, vous savez, c'est débile. Voilà, si on est en 2020 et je vous demande des fiches de paye de 2020, c'est certain que si j'attends 2021 ou si j'attends 2022, de facto, vos documents seront plus d'actualité. Mais on part du principe que si vous me les demandez en 2020 ou en 2021, bah même s'ils prennent une décision tardive, eh ben les documents restent valables. C'est ça qui est un peu compliqué avec eux.
Ben oui, c'est ça. En plus, de toute façon, pas trop honnête, moi, j'ai pas de souci par rapport ni au logement ni à l'appartement. Je suis cadre à Airbus et tout. Alors, je me posais la question que j'étais, ça devait être, ça matchait d'ici 10 mois max. Mais à la fin de compte, ça a pris 2 ans. Et même, j'aimerais bien préciser que j'ai eu l'avis favorable le mois de mars et la redevance, parce que je suis algérienne, le paiement de la redevance un mois après. À la fin, il faut prendre du temps et c'est ça l'OFI de Toulouse en galère. On a même fait une pétition contre ça et tout, mais on n'a pas eu de retour.
C'est pas une spécificité sur Toulouse, hein. Honnêtement, voilà, ce serait pas honnête intellectuellement de dire tiens, à Toulouse, il travaille moins vite qu'ailleurs. C'est souvent le cas en la matière, hein, quel que soit le l'OFI concerné.
Ben oui, c'est ça. Mais du coup, je voulais juste mettre un point par rapport à ça et souhaiter bon courage à tout le monde. Et je vous remercie encore une fois et bonne fin de journée et Saïd Komanga.
Merci Camilla.
Merci, à très bientôt.
Au revoir, Louisa est avec nous. Bonjour Louisa et bienvenue.
Louisa. Écoute, c'est un plaisir de vous dire bonjour Philippe. Hein. Vous écoutez assez régulièrement. Vous manquez parfois certaines émissions, Philippe.
C'est vrai, c'est Louisa.
Bonjour Maître Serin ici.
Bonjour madame.
Allemand. Oui, Maître Serin, j'aurais souhaité savoir quel est le délai imposé, je ne sais pas si on a un délai imposé, pour négligence médicale à la suite d'un décès.
Est-ce qu'il y a un délai pour... On est dans le domaine du délit, madame. C'est-à-dire que c'est un dossier, en tout cas une situation qui s'est produite quand?
Alors, écoutez, je vous explique très brièvement pour ne pas monopoliser. J'ai perdu ma fille. Ça va faire 2 ans, le 26 juin, pour une urgence médicale à l'hôpital de Montfermeil. C'est-à-dire qu'elle est rentrée, si vous voulez, aux urgences. C'était la deuxième partie du Covid, mais elle n'avait pas le Covid, ça n'a rien à voir. Simplement, on l'avait mis dans un box, si vous voulez, de côté. Disons qu'elle simulait ses hurlements, si vous voulez, que ça n'expliquait pas du tout une douleur. Ce sont les mots que le médecin m'a donné au téléphone. Il me dit, on comprend pas. Écoutez, ouais.
Mais Louisa, c'était il y a 2 ans, c'est ça? C'est pour la prescription.
Ça va faire le 26 juin, ça va faire 2 ans. Alors je vous explique pourquoi mettre Serane. J'ai pas pu tout de suite. Si vous voulez, j'ai demandé tous les relevés, tous les dossiers, si vous voulez. Je suis allée voir un expert médical aussi qui m'a dit effectivement il y a des points qui étaient très obscurs. Alors je vous explique pourquoi. Moi, c'était pas pour attaquer, pour avoir de l'argent ou quoi que ce soit. Ça n'a absolument rien à voir parce que j'en veux pas. Simplement, si vous voulez, parce que je voulais voir le médecin qui m'avait donné ces explications au téléphone en me disant que ma fille simulait, on va dire quelque part, maladie psychosomatique, alors que la gamine.
Louisa, restons sur la prescription, parce que si, sinon.
Moi, je voulais parler au médecin qui m'a, si vous voulez, dit effectivement ces mots-là. Et on m'a dit qu'il faut que je dépose une plainte pour pouvoir avoir cette personne en face.
Non, alors il y a deux choses. C'est-à-dire que vous pouvez opter pour l'aspect pénal.
Oui.
Et puis, on est en matière de délit, donc vous serez sur un timing de 3 ans. Mais c'est l'aspect pénal, c'est-à-dire que vous ne recherchez pas la responsabilité uniquement de l'hôpital. Je vais viser une personne et je considère que cette personne, donc ce médecin, est ou serait responsable. Moi, je vous invite plutôt, après, tout dépend de votre état d'esprit, puisque vous avez bien compris que la procédure pénale, c'est entre guillemets se dire je vais punir celui dont moi je considère qu'il est à l'origine de. Et puis vous avez évoqué une chose qui est intéressante, même si vous venez de dire écoutez, moi je fais pas ça pour l'argent. Dans ce cas-là, ce serait une responsabilité administrative, madame. Et selon moi, il vaudrait mieux se retourner directement contre l'hôpital, parce que bien évidemment, dans le cadre de cette procédure, on en reviendra non seulement à la responsabilité du médecin, alors à telle ou telle échelle, mais c'est la responsabilité de l'hôpital qui sera engagée. Et il vaudrait, encore une fois, selon moi, voire beaucoup plus large. Et si tout ça s'est produit au sein d'un hôpital, c'est une procédure administrative devant un tribunal administratif qu'il faudra diligenter.
D'accord.
Ouais, ça me semble toujours dangereux et pas forcément dans votre intérêt de viser Monsieur X ou Madame Y.
D'accord.
Parce qu'imaginez 2 secondes. Ouais, ça peut s'entendre. Imaginez 2 secondes que le tribunal considère que ce monsieur n'ait aucune responsabilité. Alors que la probabilité d'abord d'avoir une explication complète et d'obtenir éventuellement une condamnation est beaucoup plus forte. J'allais dire, si vous visez plus large. Et viser plus large, c'est viser l'institution elle-même, l'hôpital lui-même.
D'accord.
Mais, on peut poser. Oui. Qu'est-ce qui fait que vous voulez, j'allais dire, viser spécifiquement l'intéressé, madame?
Alors, je vous explique si vous voulez. C'est pour ça que je préfère vous expliquer tout de suite, si vous voulez, le pourquoi. En fait, si vous voulez, quand ma fille est arrivée dans cet hôpital-là, le médecin qui l'avait réceptionné, il l'a mis dans un box, en ne comprenant pas, si vous voulez, ses problèmes. Donc, ce médecin. En fait, si vous voulez, moi, ce qui me fait mal, c'est le décès de ma fille dans l'indifférence, surtout, si vous voulez. On l'aurait pris pour simuler, alors que malheureusement, si elle avait été prise en charge tout de suite, si vous voulez, on aurait pu se sauver, puisqu'elle a fait malheureusement une septicémie. Et au moment où elle est rentrée, c'était encore possible de lui faire une transfusion.
Alors, juste pour répondre, je crois que je comprends bien votre raisonnement, mais quand vous avez une personne qui rentre au sein d'un tel service, Même si vous avez entre guillemets un médecin attitré dont le nom apparaît sur le dossier médical, c'est l'équipe elle-même. C'est-à-dire que la responsabilité, en tout cas, si vous allez au pénal, il est peu probable, honnêtement, il est peu probable qu'un tribunal correctionnel dise monsieur, madame, c'est à cause de vous. Voyez, là. Pour essayer de si tant est, j'allais dire, que ça puisse calmer la douleur, il vaudrait mieux, madame, voir beaucoup plus large. Mais c'est pas, vous aurez pas, pardon pour l'expression qui est pas forcément jolie, la tête d'une personne. Mais c'est une responsabilité collective, et la responsabilité collective nécessite d'engager la responsabilité de l'hôpital. Mais je crois qu'il vaut mieux, mais ne serait-ce que pour vous, vaut mieux éviter de cibler telle ou telle personne. Vous n'y arriverez pas comme ça.
D'accord.
C'est-à-dire que le face-à-face, c'est compliqué.
Non, c'est injouable. Et puis encore une fois, imaginez deux secondes qu'un tribunal le relaxe.
Non, parce que je voulais, en fait, si vous voulez, le chef de service de l'hôpital des urgences m'a appelé pour me dire, on est désolé pour ce qui est arrivé, on est désolé pour ce qu'on vous a dit. Enfin bon, bref, je passe si vous voulez. Et comme j'aurais dit, moi, je vais voir juste ce médecin. Parce que peut-être que sa place n'était pas là pour me dire ces mots-là. Si
j'entends bien, mais voilà. ça relève pas de la responsabilité. Vous voyez, on est en train de parler de notions juridiques. Oui. Vous voyez, la responsabilité médicale, c'est ça, c'est une notion juridique. Donc il vaut mieux éviter de pousser cette porte-là, vous risquez d'être déçu, madame.
Même le délai, c'est 3 ans.
Voilà. Même si humainement, on peut avoir envie, évidemment, d'avoir l'explication,
et c'est légitime,
et de décharger ce qu'on peut avoir sur le cœur,
et c'est légitime,
et de pouvoir avoir effectivement cette confrontation. Merci, Louise. On fait un gros
merci
bisou.
Merci beaucoup. En tout cas, merci Philippe, et surtout bonne fête de l'Aïd à tous, à vous Philippe, à toute l'équipe de Rotten, Maître Sérène aussi. Je vous remercie infiniment.
Bon, en tout cas, vous restez vous, dans notre cœur, Louise. Merci. D'autres
merci
questions.
Merci.
Dans
merci.
Un instant, au 01 53 48 3000. 01 53 48 3000.
AVS revient dans un instant. 9h-10h, AVS avec Philippe Robichon.
Et Maître Sérane au 01 53 48 3000 qui répond à vos questions. Nous avons Fatima, Maître Sérane, qui a une question pour vous. Fatima, bonjour et bienvenue.
Bonjour.
Bonjour Fatima.
Bonjour Maître. Bonjour Fatima. Philippe. Je vais être brève. Je voulais savoir, j'ai fait un mariage. Et je viens de découvrir que la personne n'a pas divorcé en Algérie. Ah, alors que sur le trait de naissance, il est mentionné divorcé.
Oui, alors c'est... je ne vais pas dire que ça arrive très souvent, parce qu'on aura l'impression je suis en train d'exagérer, mais ça arrive parfois, c'est-à-dire que vous avez des personnes qui présentent des actes d'état civil du pays qui sont entre guillemets vierges. Et puis, vous avez aussi un acte d'état civil où il y a la mention « marié ». Bon, il y a pas mille options, hein. C'est-à-dire que la personne de la mairie qui vous a fourni le document est en bisbille avec monsieur. Oui. Mais vous avez l'acte d'état civil où il est indiqué que monsieur est marié ou pas ?
Marié et divorcé, avec un numéro d'acte.
Alors on peut être marié et divorcé, mais c'est-à-dire que quand vous êtes mariés tous les deux, officiellement, oui, il était encore lui aussi marié de son côté ?
Bah, sur l'acte qu'il a fourni, il était divorcé. Il y avait la mention divorcé.
D'accord.
Avec un numéro d'acte.
D'accord.
Et quand on est parti à ce tribunal où il a divorcé, il n'y a pas de jugement de divorce.
C'est-à-dire que vous êtes en train de me dire que... Alors, son divorce apparaît sur l'acte d'état civil, mais officiellement, ce monsieur n'est pas divorcé.
Oui. Il n'y a pas aucune trace du jugement du divorce.
D'accord. Et quand vous lui posez la question à monsieur, il vous dit quoi ?
Il me dit, t'es folle, c'est pas vrai.
Parce qu'en principe, lorsque l'on est effectivement divorcé, alors on parle d'un vrai divorce, hein, c'est-à-dire qu'avec un jugement et un jugement définitif, effectivement, les services de l'état civil vont le transcrire, ça s'appelle comme ça, c'est-à-dire le faire apparaître sur l'acte. Comment vous avez entre guillemets découvert ça ? C'est quand même assez curieux de dire bah viens, on va aller au tribunal pour vérifier si t'es bien divorcé.
Non, parce que la question, la femme est toujours à la maison avec les enfants, son ex.
D'accord.
Disant qu'elle a pas où aller, comme gentiment il la laisse à la maison, mais là il est parti, il est là-bas, il est dans la maison avec elle. Hein,
d'accord.
Et les enfants. Donc ça m'a, enfin moi j'ai pas pensé, j'ai fait confiance.
Ouais, bah oui, on peut.
Ça peut arriver.
Bien sûr.
Ça peut arriver. Et après tout le monde m'a mis la puce à l'oreille en disant c'est pas normal. Du coup, j'ai envoyé mon frère. Il est parti au tribunal. Il n'y a pas de, l'acte de jugement. Le jugement de divorce, il n'existe pas.
Ah bah oui, alors, s'il n'y a pas de, de jugement de divorce, madame, c'est qu'effectivement, par définition, ce monsieur n'est pas divorcé. Donc, s'il n'est pas divorcé... C'est que son document sur lequel apparaît cette mention est un faux.
Parce qu'au tribunal, ils n'ont pas de truc. Ils ont regardé, ils ont dit il n'y a pas, mais j'ai aucune preuve.
Ah non, mais madame, la vraie preuve, c'est le jugement. Si un tribunal vous dit ce monsieur n'a jamais engagé de procédure de divorce, ça ne sert à rien de chercher d'autres preuves. Mais il faudrait.
J'ai commencé à douter, j'ai demandé. Montre-moi le jugement de divorce.
Ouais, voilà.
Je ne l'ai pas, je ne sais pas où je l'ai mis, ça fait longtemps, je ne sais pas. On ne le donne pas ici. Je dis, comment ça, on ne le donne pas? Moi, j'ai divorcé il y a 15 ans, j'ai toujours mon divorce, mon jugement de divorce. J'ai besoin, on me le réclame des fois.
Mais ce monsieur est de quelle nationalité?
Algérienne.
Et vous-même?
Algérienne et française.
D'accord. Donc, est-ce que vous, vous pensez que ce serait un mariage, quoi, a priori, ça sentirait plus les papiers, et puis éventuellement faire venir la première épouse, en tout cas l'épouse actuelle.
Bah, la faire venir, je ne sais pas, en tout cas les enfants, peut-être, oui.
Et alors, vous, votre volonté, ce serait de faire quoi? C'est-à-dire que, il vous a menti, mais vous pardonnez, ou vous voulez vous séparer de monsieur?
Non, je veux séparer, je veux retirer sa carte de résident. Je veux que tout sera
D'abord, c'est ce que j'allais vous dire, mais de toute manière, si vous prévenez déjà à minima le procureur de la République, lui-même va engager une procédure, puisqu'évidemment...
J'ai besoin d'un avocat pour...
l'avocat est obligatoire. Et il faudra, alors, en dehors d'informer le procureur de la République, mais ça va être une procédure d'annulation de mariage. C'est-à-dire qu'on considère que ce monsieur ne pouvait pas se marier avec vous, puisque la polygamie n'est pas reconnue, et donc le tribunal va annuler le mariage, et il y aura évidemment des conséquences administratives. Vous me parliez de la préfecture, bien évidemment les autorités préfectorales vont sanctionner monsieur.
D'accord, donc il faut un avocat.
L'avocat est obligatoire, hein, la procédure se passe devant le tribunal judiciaire du lieu de domicile.
Ce qui m'embête, c'est que j'ai pas au tribunal, ils donnent pas. Ils disent j'ai pas, je vous donne quoi comme papier qu'il est pas divorcé, j'ai rien. Il y a pas.
Ce que vous pouvez faire, madame, c'est-à-dire que vous pouvez tenter, j'allais dire le coup de bluff, c'est-à-dire en disant il est établi où on a appris que monsieur était marié. Et peut-être qu'avec cette assignation, alors c'est le document qui permet d'engager la procédure, si vous-même vous le présentez, ou si peut-être, il sera peut-être nécessaire de prendre aussi un avocat au pays éventuellement pour faire ce type de démarche, mais si vous justifiez qu'une procédure est engagée sur le territoire français, ça va peut-être inciter quand même la mairie simplement à dire si l'acte d'état civil où il est inscrit que monsieur serait divorcé, que cet acte d'état civil est faux. Mais c'est vrai que je peux comprendre l'administration du pays qui dit « Attends, on va pas vous donner l'information comme ça, débrouillez-vous ». Mais il faudra peut-être leur prouver que vous avez fait quelque chose, une démarche, et que pour votre démarche sur le territoire français, vous avez besoin de cette information.
Ouais, ça a l'air d'être compliqué.
Non, c'est pas compliqué.
Il faut être sur place, on peut pas...
Ah, ça c'est autre chose. Bah oui, évidemment.
Sur place, il faut courir. Ok, je prends un avocat sur place, là-bas, ouais. Ça va me gérer tout ça. Et voilà, moi c'était l'épreuve pour prouver, je veux pas parler dans le vide. Je veux vraiment qu'il y ait des
preuves. Ah non, mais de toute manière, là,
prendre un détective privé.
Voilà, ou un détective du bled.
Ils sont tous des
attends, si tu veux des preuves, fais des photos.
Ouais.
Tu planques.
Détective corrompu du bled. Ok. Non, madame, tout va bien, t'inquiète pas.
Tout va bien.
Non, mais j'y crois pas. Non, mais
Je vais à la mairie.
Mais voilà, c'est ce que j'allais vous dire. De toute manière, madame, vous. Vous pouvez demander un acte d'état civil de monsieur, éventuellement.
Ça sort le divorce, marié, divorcé, et marié avec moi.
Alors, dans ce cas-là, il n'y a que le tribunal qui peut dire si une procédure a existé ou pas.
Le tribunal de...
Le tribunal du lieu où monsieur a divorcé, au pays. Là, par contre, je ne sais pas, ça dépend où il habite.
Bien. Fatima, vous pourrez appeler Maître Serran après l'émission hors antenne.
J'interviens aussi en Algérie.
C'est vrai?
Non.
Non, bah non.
Enfin, je pourrais.
À Razaouette. Ouais, bon, donnez votre numéro avant.
Alors, 06 oui. 62 58 59 64. 06 62 58 59 64.
Maître Serran sur Beurre FM. Vous serez là ce week-end? On vous voit?
La probabilité est faible. mais je vais y penser. Sérieusement.
Je vais y penser. Et le je vais ouais. ne me rassure
ouais.
pas du tout.
Ouais, je sais.
Mais c'est comme quand les gens qui disent je vais essayer d'y penser.
Vous me connaissez bien.
Oui, je sais. Bon, je vous retrouve tout à l'heure pour les petites annonces.
Retrouvez AVS tous les jours de 9h à 10h et en podcast sur beurrefm.net et l'appli Beurre FM.